marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
L'énorme paquebot de 316 mètres et de 79 000 tonnes va mettre pour la première fois le cap sur New York.
Le Normandie, vie brève, mémoire longue.
Alors, arrivé à New York a été quelque chose de formidable. On est arrivé par un temps de brume, on est arrivé dans le coton exactement, et puis alors brusquement ça s'est déchiré. Et alors on a vu New York, bien entendu les Américains, ils ont envoyé toute une flotte de bateaux, tous plus saugrenus les uns que les autres, c'est-à-dire qu'il y avait un Mickey Mouse géant qui avait, je ne sais pas moi, 30, 50 mètres de haut. Il y avait une caravelle. Où avait-il été frété cette caravelle? Dieu seul le sait. Vous savez comment ils sont, les Américains. Alors, dans leur enthousiasme, ils jetaient des feuilles d'annuaire téléphoniques par les fenêtres, exactement comme ils auraient jeté des confettis.
J'ai pu voir toute la foule new-yorkaise, tous les gens massés sur les quais, l'accueil que New York, que l'Amérique faisait à cette espèce de paquebot qui, pour eux, était absolument nouveau. Seulement que c'était quelque chose d'impensable. Ça, j'aurais jamais imaginé qu'un paquebot pouvait recevoir un tel accueil aux États-Unis.
À cette arrivée du premier voyage transatlantique du Normandie en juin 1935, les Américains voulaient croire que la grande crise économique était conjurée. Les Français, avant même l'arrivée, avaient décroché avec le bateau le ruban bleu, c'est-à-dire le record de vitesse de la traversée transatlantique. Il était auparavant détenu par l'Italie. Le lancement du Normandie, puis celui du Queen Mary, redonnait l'avantage aux démocraties qui présentaient leurs bateaux comme des ambassadeurs pacifiques. Le Normandie ne tanguait ni ne roulait, sa taille impressionnait. La République, qu'il incarnait majestueusement, était pourtant bien fragile. Pendant la construction, le gouvernement Laval avait sauvé de justesse la Compagnie Générale Transatlantique qui avait entamé les travaux et s'y noyait. Au départ du premier voyage, le chef de l'État, Albert Lebrun, avait présidé la parade. Mais où était l'État? Y avait-il encore un chef? Le ministre de la Marine, en embarquant, représentait le gouvernement flandin. À l'arrivée, il n'y avait plus de gouvernement, il ne représentait plus rien. Le Normandie était conçu pour près de 2000 passagers. Pendant les rotations de sa brève carrière, il n'en embarqua en moyenne que la moitié. Le temps était à la contraction des échanges. L'été 38, en pleine crise internationale, la lutte pour le ruban bleu entre le Normandie et le Queen Mary avait quelque chose de dérisoire. Il est des êtres qui ont le destin passager des anges et des paquebots qui filent comme des comètes. Mais la mémoire longue qui nimbe le Normandie est aussi la résultante de cette brièveté.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Dorian Dallongeville, bonjour.
Bonjour.
Le directeur du patrimoine de French Lines, qui longtemps fut une association et qui maintenant est un établissement à
public de coopération culturelle.
Et qui, au Havre, conserve notamment les archives du Normandie, mais aussi celles qui sont issues de la fusion de deux grandes compagnies maritimes qui avaient leur escale au Havre. Le bateau faisait 313 mètres de long. Et alors, si vous calculez en mètres linéaires, vous calculez peut-être en côte, vous, les archives du Normandie, parmi vos trésors, ça représente quelle longueur?
Les archives de Normandie, c'est à peu près 300 côtes. Alors après, si on fait une moyenne en centimètres, ce qui est très compliqué à faire, on arrive peut-être sur quelques dizaines de mètres linéaires, en tout cas sans aucun doute.
Alors, parmi ces archives de la French Line, celle de la Compagnie Générale Transatlantique, qui lance le projet, mais avant la guerre de 14.
Ah oui. Oui, tout à fait. Le projet, si on peut appeler ça un projet, puisqu'il y a une convention postale qui est passée avec l'État par la Compagnie Générale Transatlantique dès 1912. Et c'est au sein de cette convention postale, parce que n'oublions pas que le mot paquebot vient de l'anglais packet boat, c'est un navire de transport du courrier, d'où les conventions postales. Et donc, les compagnies maritimes sont subventionnées par les États pour transporter les colis et le courrier. Et donc, en 1912, la convention postale prévoit qu'en 1932, donc 20 ans plus tard, devra être mis sur la ligne de New York à nouveau superbe paquebot, un grand paquebot.
C'est ce qui se fera, mais non sans aléas. Le parcours du Normandie est chaotique. Il a été accéléré quand même par la concurrence des bateaux allemands et des bateaux italiens. Mais quand on commence la de construction, c'est sur les chantiers navals de Penouët à Saint-Nazaire. L'argent manque assez vite à la Compagnie Générale Transatlantique.
Oui, et effectivement, la concurrence est un des grands marqueurs de la naissance du paquebot Normandie, puisque les Allemands, avec la Norddeutscher Lloyd, avaient mis en place Bremen et Europa déjà dans les années 20, et les Italiens, avec le paquebot Rex et le paquebot Conte di Savoia, sont également sur les rangs. Et il faut pas oublier non plus que les Anglais ont dans les cartons, avec la Cunard Line, le projet de Queen Mary. Donc il est grand temps pour la France d'agir, malgré la crise économique qui frappe de plein fouet à partir de 1929, la Compagnie Générale Transatlantique également.
Oui, enfin, vous dites, malgré les difficultés économiques, mais enfin, le travail a failli être interrompu en 1931-1932.
Ah oui, oui. Disons que c'est l'ensemble des finances de la Compagnie Générale Transatlantique qui sont mises en péril, et la compagnie risque la faillite. Et donc, à ce moment-là, la Compagnie Générale Transatlantique est mise sous tutelle de l'État. Et donc, un administrateur directeur général, Henri Cangardel, est nommé. Un nouveau président de conseil d'administration également apparaît, c'est le gouverneur général Marcel Olivier. Et donc, ces deux personnes vont prendre en main le destin de la Compagnie Générale Transatlantique pour redresser
sous
la houlette de l'État. Effectivement, à partir de ce moment-là, on peut considérer que c'est une société d'économie mixte, donc qui est publique.
C'est une partie des archives Cangardel qui est vendue à Drouot tout à l'heure. Je ne comprends pas très bien la différence entre le lancement, l'armement. Alors, il y a les essais aussi. Mmh. Il s'écoule là, une fois que la construction est largement achevée, pas mal d'années.
Oui, puisque la pose de la quille, donc vraiment l'acte initial de construction du navire, se fait en 31, en janvier 1931, alors que le lancement proprement dit a lieu en octobre 1932. Alors la différence, c'est que le lancement, c'est le moment où le navire va toucher l'eau pour la première fois. Donc il descend sur sa rampe de lancement à Saint-Nazaire au chantier, en présence de Marguerite Lebrun, l'épouse du président de la République. Et donc il part ensuite dans une cale d'armement, là où il va être achevé. Donc c'est-à-dire on va y ajouter l'ensemble des superstructures, de la décoration intérieure.
Et les machines.
Et les machines.
C'est quand même important, parce qu'on va commencer, si vous le voulez bien, avec Blaise Sandrard, qui appartenait au voyage inaugural pour le compte du journal en photo Excelsior, par les salles des machines.
Je viens de passer ma première nuit de quart dans la salle de chauffe. J'ai suivi la circulation du mazout, des soutes jusqu'aux 30 chaudières, où il se déverse en un torrent de feu. À plus de 30 mètres de profondeur sous le sun deck, dans les fonds où les bruits des jazz bands n'arrivent pas, j'ai assisté au travail mystérieux des graisseurs, debout devant les yeux bleus, blanc, rouge des chaudières. Poussant une lourde porte où je faillis être renversé par un courant d'air, je débouchai dans la salle des dynamos, bruissante, ronflante et toute remplie d'un rythme continu qui est le seul témoignage de la force invisible, car nulle part on ne voit tourner une roue ni travailler une bielle. Et ce bourdonnement est le seul témoignage d'une puissance de 160 000 chevaux qui anime le Normandie, ce navire de 79 000 tonnes, le pousse et jette cette masse en avant à la vitesse de près de 60 km à l'heure.
Oh là là, j'ai travaillé. J'étais dans les soutes avant, à mettre tous les tuyaux là, pour la vapeur, pour chauffer le mazout, vous comprenez. Ils mettaient des serpentins dans les soutes. On a fait tout ça, puis après, il fallait faire la machine. Puis la machine, c'était les chaufferies aussi. Puis après, j'ai travaillé à la coque en haut, tous les ponts, tout ça. J'ai fait tous les compartiments, quoi, pour faire la tuyauterie, quoi.
Ah, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient sur le bateau, sur le Normandie.
C'était une vraie fourmilière, hein. C'est une vraie fourmilière à bord.
Alors, on dit qu'il y avait beaucoup de bruit, que c'était une véritable usine.
Ah oui, il y avait du bruit. Hein. Oh, oui. On parlait comme ça, là. On voyait que la bouche qui bougeait, mais on n'entendait rien. Hein. Ah, c'était un vrai... Ah, c'était dur. Hein. Elle est... Toujours comme ça. Hein. C'est bien, le soir, la tête comme ça. Hein.
Joseph Magaudy-Chaudronnier, interrogé 50 ans plus tard dans l'émission Tabou sur France Inter. C'est sûr que dans les salles des machines turbo-électriques ne pénétrait pas le bruit des jazz bands, des ponts supérieurs que signalait tout à l'heure Sandra. Turbo-électrique ?
Oui, alors là, c'est vrai que la machine de propulsion du navire combine un certain classicisme avec beaucoup de modernité. C'est-à-dire que ce qui est classique, c'est d'avoir quatre hélices et une propulsion au mazout, qui existait déjà à cette époque. Mais si vous voulez, c'est surtout le mécanisme intermédiaire, en fait, qui est très moderne. C'est-à-dire ce qui permet de réduire la vitesse des turbines. Et donc, plutôt que d'utiliser des engrenages, comme ça se faisait auparavant sur l'ensemble des navires, ce qui est extrêmement bruyant, on va utiliser cette fois des turbo-alternateurs. Quatre turbo-alternateurs. D'ailleurs, en cas de panne de l'un, ils peuvent quand même entraîner les hélices pour les autres. Et il déploie 160 000 chevaux de puissance, en plus de la production électrique pour le navire, c'est-à-dire à peu près ce qui était estimé à l'époque à 1/25e de la production d'électricité à l'échelle française, ce qui est absolument gigantesque.
Mais c'est comme ça qu'on atteint le record, le fameux ruban bleu. On dépasse les 30 nœuds assez souvent, quoi.
Oui, effectivement. Alors, sur le voyage inaugural, on est sur une moyenne de 29 nœuds et quelques, hein, enfin à peu près 30 nœuds. Mais le ruban bleu était vraiment la récompense, la consécration, disons, pour les navires sur l'Atlantique Nord. Donc, c'était entre Bishop Rock et l'arrivée sur New York, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Et Normandie rafle ce ruban bleu aussi bien à l'aller qu'au retour. La concurrence sera rude par la suite.
Alors, à l'aller, les passagers du voyage inaugural sont informés, paraît-il, heure par heure, par le service de propagande du bord, de l'état de la performance. Ils sont tous très très bien disposés, ils sont tous invités. Et voici les souvenirs d'abord de Philippe Soupeau, puis ensuite on entendra une écotière coriace.
C'était un magnifique bateau. Mais il y avait une impression singulière, c'est qu'on était sur un bateau où on ne voyait pas la mer. Et ce qui était agréable, si vous voulez, mais en même temps un peu inquiétant.
Mais on la cherchait.
On la cherchait, on passait son temps à aller voir s'il était bien là. Ce qui était aussi, pour moi, qui avait fait plusieurs traversées tout à fait remarquables, mais qui ne semblait pas impressionner les gens qui n'avaient jamais fait de traversée, c'est que le bateau tenait admirablement la mer, il n'y avait ni roulis ni tangage. Et les gens qui n'avaient jamais fait de traversée étaient tout à fait... trouvaient ça tout naturel.
Vous croyez que c'était toujours comme ça.
Et ce n'était pas du tout vrai. C'était une des grosses caractéristiques du bateau. Mais il y a eu tout de même une catastrophe. On n'en a pas beaucoup parlé parce que nous étions gentils. Nous étions les hôtes de la transatlantique. Mais ça a été absolument consternant. C'est que le bateau vibrait. Et il y avait des cabines où c'était absolument impossible de dormir. La mienne notamment, je sautais sur mon lit, on ne pouvait absolument pas dormir tellement le bateau vibrait.
Ouais. Tout de même, ça n'était pas encore au point, il faut bien le dire. Et dans les cabines, ça n'était pas très fameux comme confort. C'est-à-dire que quand on ouvrait le robinet, ou il ne coulait pas, ou quand on voulait l'arrêter, ben, il ne se fermait plus. Ce qui fait que ma cabine a été entièrement inondée.
Et puis il y avait les fameuses vibrations.
Fameuses vibrations, les chars. Les dames un peu grassouillettes avaient les bras transformés en... Vous savez, c'est ce blanc mangé cher aux Anglais.
Les côtières ingrates, c'est Odette Pantier. Alors je ne sais pas si elle a dit ceci dans le journal qui avait été invité à participer au voyage inaugural, mais... Elle l'a confié dans l'émission « Soyez témoin » d'André Gillois en 1956. Vous avez photocopie du livre de bord. Il n'y a pas le livre d'or dans les archives du Havre.
Alors le livre d'or est conservé aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix.
Ah.
Voilà. Il n'est pas dans les archives
au
Havre. Parce qu'il a été récupéré par les archives nationales beaucoup plus récemment. Hein, ça date d'il y a vraiment très très peu de temps.
Parce que le dernier capitaine peut-être...
C'est ça, c'est-à-dire qu'il était dans le domaine privé, si je peux dire. Alors que bien sûr, le livre d'or du paquebot Normandie relève du domaine public et des archives nationales. Donc il a été revendiqué.
Mais là, on parle du premier capitaine et de son second. Mais ils n'ont pas fait signer beaucoup de personnalités au premier voyage inaugural. Pourtant, il y en avait beaucoup.
Oui, tout à fait. Non, étonnamment, c'est vrai que quand on regarde les premières pages... L'ensemble des signatures est loin de représenter la totalité des passagers embarqués.
Et le Maharaja de Kapurthala, pour lequel moi j'ai de l'affection, il ne signe pas au moment de son premier voyage.
Non, il signe effectivement sur un voyage beaucoup plus tardif.
C'est quoi alors la vie sur les ponts supérieurs? Il y a deux piscines, il y a des bars, et on sert à manger et à boire en continu, quoi.
Un des marqueurs, là aussi, d'ailleurs, de la compagnie transatlantique, c'était quand même une certaine joie de vivre à bord. D'ailleurs, la compagnie transatlantique est la seule à proposer le vin à discrétion à bord. C'est-à-dire que ce n'est pas le cas sur les autres compagnies européennes. Donc, bien sûr, ça contribue largement à l'atmosphère de fête, ce qui est d'ailleurs très recherché par la clientèle américaine. Alors, la première classe sur Normandie occupe 70% des espaces du navire. Elle est très bien dotée, aussi bien en piscine, salle de gymnastique, jardin d'hiver, jeu de tir aux pigeons, chapelle également, salle à manger absolument gigantesque. Enfin, on ne s'ennuie jamais et on mange beaucoup sur les paquebots.
Et puis, on chante le French Troubadour, Jean Sablon. Il a dû prendre plus d'une fois le Normandie avant de s'établir aux États-Unis dès 1937.
Le jour où vous m'avez laissé, vous avez cru tout effacer dans votre geste, mais il me reste mille témoins des jours passés. Un peu de vous partout qui traîne m'apporte les joies et les peines. Ce vieux billet, chéri, qui me rappelle les nuits à bord du Normandie si belle. La lampe qui repose, ces petites choses me parlent de vous. Ce doux refrain d'amour que Crosby chante, bon, 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 le vent du soir là-bas qui se lamente. Et votre porte close, ces petites choses me parlent de vous. Chérie, pourquoi m'avoir quitté? Pourquoi m'avoir quitté après ce que nous avons été? Ce toi et moi écrit à notre image, ouvert ce soir à la dernière page. Partout où mes yeux se posent, des petites choses me parlent de vous.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Alors ceci s'appellerait à France Musique une virgule, ça s'appelle la France Inter un liner. Ça tombe bien, Dorian de Longeville, nous parlons de l'histoire d'un liner, le Normandie 1935. On verra comment il finit. Vous avez entendu Jean Sablon, il a trouvé que les nuits du Normandie avec sa compagne, ou peut-être son compagnon, étaient belles et tranquilles. Il n'est pas désagréable, lui, quand à la vie dans les cabines. Qu'est-ce que c'était le décor des cabines, d'ailleurs ?
C'était un décor qui était relativement moderne, en tout cas en écho à la conception générale de la décoration du navire. Alors bien sûr, quand même, subsistent certains décors. On fait une petite entorse, disons, à la règle de l'art déco, en allant mettre une suite qui rappelle les anciens styles français, le style du grand siècle. Mais globalement, les cabines obéissent un petit peu à la même règle pour le reste des grands espaces du navire. Donc on est vraiment sur un pur art déco qui avait déjà été consacré à bord du paquebot Île-de-France en 1927. Mais c'est un modernisme qui n'est pas radical. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher non plus du côté de l'Union des artistes modernes ou du côté du style international. Vous voyez, c'est reste
pour Le Corbusier, qui fréquentait souvent les paquebots, et sur le Normandie, qu'il a eu une aventure avec Joséphine Becker, je ne suis pas sûr. Art déco, c'était l'abomination de la désolation. Il n'aimait pas ce mot-là, parce que ça supposait ornement. Ornement, identité nationale, surcharge, etc. Mais il y avait de grands ornementistes, ferronniers, laqueurs.
Il y avait un programme décoratif qui était tout à fait exceptionnel. D'ailleurs, le paquebot s'appelle Normandie, mais une partie de sa décoration fait directement écho à la région Normandie. Par exemple, les portes de la salle à manger par Raymond Sub, qui font 8 mètres de haut. Portes qui sont aujourd'hui dans la cathédrale Maroni de Brooklyn, à New York, d'ailleurs, ce qui est assez amusant. Ces portes représentent, chaque médaillon représente une grande ville de Normandie. La porte de la chapelle, une porte coulissante, tout en émail, plusieurs mètres de haut, représente un chevalier normand conquérant. Bien sûr, ce sont quelques éléments de décor.
Il en a encore les yeux carrés, un décorateur de 17 ans, à l'époque, Henri Lecomte.
Il y avait des bois précieux, il y avait beaucoup d'acajou, du sapelier, du grand bassam et tout ça, citronnier, sycomore, il y avait des bois exotiques, des avaudirés et tout ça. C'était des bois, forcément, c'était des bois qui étaient très très précieux, mais c'était des splendeurs, hein. C'était du très grand luxe, hein. Toutes ces colonnes dorées, là, de tout ça, c'est magnifique. Il y avait des doroses qui venaient de Paris, qui mettaient des feuilles d'or sur les trucs, c'était quelque chose de formidable. Puis il y en avait partout, hein, même la miroiterie, les bouchons pour ouvrir les robinets, tout ça, c'était des œuvres d'art, quoi.
Il y avait une chose qui m'impressionnait beaucoup, c'était une statue gigantesque dorée qui était derrière la table présidentielle où était le gouverneur Olivier et qu'on regardait là. C'était une statue qui, suivant les oscillations du bateau, remuait comme ça. Elle remuait et on se disait, elle tombera à un moment donné, mais quand tombera-t-elle?
Et elle n'est pas tombée.
Non, elle n'est pas tombée. Mais les deux fois où j'ai été à un repas convié par le gouverneur Olivier, j'étais pas fier parce que j'étais juste dans l'axe.
Toujours la spécialiste du coup de patte, c'est Odette Pantier. Vous diriez, la Normandie, vous, il y a une vente à Drouot tout à l'heure, 14h, objet, photo, le Normandie. Mais alors évidemment, vous êtes basé au Havre, French Line, dont vous dites la Normandie, non?
On dit Normandie sans aucune précision. D'ailleurs, c'était un grand motif de débat dès la mise en service du navire. Certains disaient la Normandie. Il y a eu un paquebot qui s'appelait vraiment la Normandie, d'ailleurs, au 19e siècle. D'autres se battaient pour dire le Normandie. Donc la Compagnie Générale Transatlantique a essayé d'imposer Normandie, tout court. Bon, maintenant, dans les usages, on dit souvent le Normandie, mais peut-être, je ne sais pas, c'est un petit côté puriste. En tout cas, nous pratiquons Normandie sans rien mettre devant.
Le bateau peut accueillir à peu près 2000 passagers. Quand on compte bien, il y en a eu à peine 1000 en moyenne. Alors j'espère que c'était des passagers de luxe. Alors, que ça laissait du coup un peu de bénéfice à la Compagnie Générale Transatlantique qui en avait bien besoin.
Voire moins d'ailleurs de passagers. Ça dépend, tout dépendait de la saison et des rotations. C'est-à-dire que parfois, dans le sens Le Havre vers New York, on avait parfois 500, 600 personnes. Et au retour, beaucoup plus. Alors, il est vrai aussi que depuis la fin de l'émigration de masse dans les années 20, ce n'est plus la troisième classe qui, disons, assurait le financement de la compagnie. Et c'était effectivement la première classe qui dépensait sans compter et qui, elle, pouvait assurer une grande partie des revenus des compagnies maritimes. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde se battait, que les compagnies européennes se battaient pour conquérir ses parts de marché.
La situation internationale est telle l'été 39 qu'il y a de la place même dans la première classe. C'est pour ça que la Compagnie Générale Transatlantique invite des comédiens, un réalisateur, Yves Mirande, une équipe de tournage, celle du Paris-New York, vous avez retrouvé ce matin,
vous m'avez envoyé ça,
dans les archives, le commentaire du commandant.
Oui, je remercie l'équipe du Havre qui ce matin a réussi à trouver dans les archives, justement, mention dans les rapports de voyage que nous conservons au Havre, mention justement du tournage à bord qui a priori s'est passé très calmement dans les meilleures conditions.
C'est vous qui le dites, parce que le scénario, si la compagnie l'avait regardé d'un peu près, enfin elle avait des places à faire occuper, ne rassemblait sur le pub que des escrocs et des repris de justice. Alors évidemment, ils s'appelaient Eric von Stroheim, Claude Dauphin, Michel Simon, mais enfin, c'était des hommes de sel, quoi, et des dames assez dessalées.
Mes respects, mon commandant. Permettez-moi de vous présenter mademoiselle... Miss Deauville.
Mademoiselle, oui. Soyez la bienvenue à notre port. La beauté est une ambassadrice que tout le monde admire.
Oh, monsieur le commandant. Monsieur le commandant.
Quoi, monsieur le commandant? Remercie, monsieur le commandant, voyons. Il est timide.
Oui. Et vous êtes contente de voyager?
Oh oui.
L'Amérique vous tente?
Oui. Surtout les milliardaires.
Ah, les milliardaires, pardon.
Oui, mais t'as besoin de dire ça au commandant.
Mais...
Tous ces acteurs avaient signé pour ce film pour le plaisir de faire ce voyage sur Normandie, parce que c'était quand même rare dans le métier d'avoir l'occasion de faire un aller-retour sur un paquebot aussi magnifique. C'était au mois d'août 39, et puis 8 jours après, c'était la déclaration de guerre.
Gisèle Préville, une des actrices, une ancienne Miss France, vraiment Miss France, pas une fausse Miss Deauville. Le film a fini par sortir en 40, et Gisèle Préville prétend que la compagnie transatlantique a songé à faire un procès. Mais enfin, elle avait d'autres soucis, je pense, en 1940. Dernier voyage, c'est l'avant-dernier voyage, le tournage. Oui, dernier voyage ensuite.
Oui. Normandie à Paris pour sa 139e traversée, le 23 août 1939, exactement. Donc ce sera un voyage sans retour.
Avec le Maharaja et la Maharanée, c'est pas les mêmes que tout à l'heure, de Tripura. Qu'est-ce qu'il advient alors de New York? C'est un réceptacle de bateaux européens qui sont désarmés ou qui, comme le Queen Mary, vont être utilisés pour des transports de troupes. Enfin, comment les Américains regardent-ils d'ailleurs, ils sont encore neutres, tous ces bateaux?
Oui, et c'est vrai que un temps donné, vraiment au tout début des hostilités, se retrouve dans le port de New York, Normandie, Queen Mary, d'autres navires. Et Normandie va faire figure d'exception dans tout cela. C'est-à-dire que lui va rester à quai, tout simplement parce que les autorités françaises, se disant, sait-on jamais, le conflit sera peut-être court.
Putain.
Il faut sauvegarder sa décoration, il a coûté tellement cher. On se dit peut-être qu'on pourra le réutiliser assez rapidement. Bon, finalement, il advient le désastre qu'on connaît en 1940. Donc le navire est toujours là, à New York. Les autorités américaines commencent évidemment à y voir quelque chose d'extraordinaire, puisqu'il peut transporter, il pourrait transporter une division entière, 15 000 hommes, s'il était transformé en transport de troupes. Et donc, lorsque la France bascule, les autorités américaines décident de réquisitionner le navire et font exercice du droit d'angari, c'est-à-dire la possibilité pour un belligérant de saisir ce qui se trouve sur son territoire.
Parce que les États-Unis deviennent belligérants fin 1941. Et donc, on va aménager le salon de première classe, les cabines de première classe. Ça nécessite quelques travaux avant de les transformer en lieu de transport de troupes.
Alerte d'incendie au numéro 9. Pont à escalier de service, bâbord première classe. Téléphonez au central sécurité.
Alors, alerte d'incendie au numéro 9, suite de Luxe Chantilly.
Alerte d'incendie numéro 9, suite de Luxe Chantilly.
Nous sommes le 9 février 1942. Et le Normandie va rapidement prendre feu.
L'incendie éclate dans le grand salon de la première classe à 14h15. C'est une étincelle d'un chalumeau qui tombe sur les gilets de sauvetage qui donne le début de l'incendie. Alors c'est le résultat de bien des problèmes, c'est-à-dire que l'équipage français avait été débarqué précipitamment, lui qui connaissait bien le navire. Les autorités américaines n'ont pas vraiment pris la mesure de la complexité de ce navire. Et donc les bateaux-pompes new-yorkais arrivent, déversent des dizaines de tonnes, des dizaines de milliers de tonnes d'eau sur le navire pour éteindre l'incendie. On pense que la situation est stabilisée d'ailleurs au début de la nuit, puisque l'incendie est contenu. Le navire gîte, mais de quelques degrés seulement. Mais c'est trop tard, on ne peut plus, l'eau continue à s'infiltrer dans les ponts, on n'arrive pas à l'évacuer. Et donc dans la nuit, autour de 3h du matin, le navire gîte dangereusement pour finalement chavirer totalement dans le port de New York.
Alors on s'interrogera du côté américain avec une commission d'experts nommée par Roosevelt sur la réutilisation possible quand même de tout ou partie du Normandie. Par politesse, j'imagine qu'on offrira après la fin de la guerre à la France de reprendre l'épave. Dans la France, on n'a pas vraiment les moyens.
Non, effectivement, et le navire finalement, après avoir eu l'idée de le renflouer, finalement c'est en septembre 43, il est bien redressé dans le port, mais la remise en état est strictement impossible. Il est finalement vendu à la ferraille en septembre 1946 pour la somme dérisoire de 160 000 $. Ainsi s'achève effectivement cette destinée tragique.
Et la compagnie générale transatlantique, elle n'a pas récupéré un bateau allemand peut-être après la guerre?
Alors, il y a eu des compensations, c'est-à-dire que c'est le gouvernement américain qui a obtenu le paquebot Europa de la Norddeutscher Lloyd et le rétrocède à la France en compensation. Ce paquebot qui sera refondu à Saint-Nazaire et qui donnera le paquebot Liberté mis en service en 1950. Et puis la décoration du paquebot Normandie, puisque beaucoup de choses ont disparu. Des choses aujourd'hui sont dans les espaces publics new-yorkais. Mais une partie des éléments ont été rendus à la France et certaines lacs, par exemple, de Dunant ont été réutilisées ensuite sur Liberté ou sur Île-de-France.
Alors souvent, on a vu dans les ventes passer des objets issus du Normandie, là, dans deux minutes, à Drouot commence une vente à laquelle vous allez courir dardard d'Orient, d'Allongeville, constituée de photos, de reproductions de photos et d'archives. Mais vous n'avez pas les moyens, French Lines, d'acheter grand-chose. Comment ça marche, alors, cette association qui est devenue un établissement, rappelez-moi?
Établissement public de coopération culturelle. C'est une actualité extrêmement récente, puisque l'établissement public est en fonction depuis le 1er avril dernier. Donc, effectivement, pour l'instant, nous n'avons pas de budget propre d'acquisition. Nous ne pouvons pas directement aller acheter en vente. Néanmoins, nous avons régulièrement le soutien de donateurs, de mécènes pour pouvoir acquérir quelques nouvelles pièces.
Et puis le soutien de la région de la Normandie et de la ville du Havre. Merci à vous. Cette émission était réalisée par Sonia Leglen avec à la technique Henri Bérec.